Alors, on va reprendre pour la deuxième partie. Je vais vous installer. Donc, pour la deuxième partie, vous allez avoir un exposé de Pierre Corsiol, qui est un des champions de Kaggle. C'est-à-dire, vous savez, Kaggle, c'est cette plateforme qui a créé du côté commercial ces compétitions. Et il se trouve que c'est un peu comme au tennis, où dans beaucoup de... on a un classement au bout d'un moment, et Pierre fait partie de ceux qui ont gagné beaucoup de challenges. Et donc, le but là, c'est de vous montrer l'aspect un peu plus pratique du traitement de données, et en même temps de vous montrer que cet aspect pratique, il n'est pas du tout déconnecté des aspects théoriques. Il faut vraiment comprendre les deux aspects, mais il y a toute une composante de méthodologie, aussi de créativité. Et donc là, j'espère, ça vous mettra aussi le pied à l'étrier pour ceux qui veulent faire ces challenges. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire cette présentation.
Merci à vous. Alors donc déjà, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc aujourd'hui, comme le disait Stéphane Mala, on va essayer de voir ensemble comment on peut s'attaquer à une compétition de machine learning. Souvent, quand vous téléchargez un dataset sur la plateforme, vous ne savez pas forcément exactement comment vous y prendre, vous pouvez être un peu dérouté. Donc moi je suis, pour une petite présentation, data scientist chez Okin. Okin, en quelques mots, c'est une start-up qui a été fondée il y a un an et demi par Gilles Varib, qui était professeur assistant à l'ENS, et Thomas Clausel, qui était chef de clinique à l'hôpital Henri Mondor. Chez Okin, on fait beaucoup de machine learning et exclusivement appliqué au domaine de la santé. Alors, j'ai fait ma première compétition de machine learning il y a à peu près 5 ans. Donc c'était sur la plateforme Kaggle. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, la plateforme ENS Challenge Data n'existait pas encore. Donc ce sont des plateformes, ENS Challenge Data et Kaggle, qui vont héberger des compétitions. Les compétitions sont, elles, organisées par des entreprises, par des laboratoires de recherche. Donc j'ai dû passer plusieurs centaines d'heures, je dirais presque un millier d'heures, sur différentes compétitions. Sur les 16 compétitions, il y en a 7 où effectivement j'ai obtenu la médaille d'or, donc qui est un peu le top 10. Quand on arrive dans le top 10, on a la médaille d'or. Alors le but, ça va être de partager avec vous cette expérience, ou au moins quelques éléments méthodologiques qui vont vous permettre d'aborder au mieux un challenge et une compétition de data science. Alors voilà le plan, donc un plan assez succinct, mais il y a malgré tout beaucoup de choses à dire. Donc la première partie, on va essayer de définir ensemble déjà qu'est-ce qu'une compétition de machine learning. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des connaissances requises, ou que moi j'estime être requises pour pouvoir atteindre le haut du classement. Et puis on va parler méthodologie, quelle est la succession d'étapes qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir atteindre, je dirais, le haut du classement. Alors c'est aussi assez subjectif, ça passe par mon expérience. Il n'y aura pas de formule magique, il n'y a pas de recette où je vais vous dire, bon alors là il faut appliquer, cliquer sur suivant, etc. et vous arrivez dans le haut du classement. Il va falloir principalement que vous y consacriez du temps, il va vous falloir de la persévérance, il va vous falloir de la créativité et, comme je le disais, des connaissances évidemment. Alors déjà, avant de définir qu'est-ce que le machine learning, en un schéma, qu'est-ce que le machine learning? Ce que je veux dire par ce schéma, c'est que le machine learning, ça va être une discipline qui va être à la frontière entre les mathématiques et les statistiques et l'informatique. Plus vous allez être du côté de la recherche fondamentale, plus vous allez être du côté mathématique-statistique, plus vous allez être du côté machine learning appliqué et plus vous allez être du côté informatique. Si vous êtes allergique aux mathématiques et aux statistiques, le machine learning, pour moi, n'est pas fait pour vous. Si vous êtes allergique à l'informatique, le machine learning n'est pas fait pour vous non plus. Alors, qu'est-ce qu'une compétition de machine learning? Donc ça, ce sont des compétitions de machine learning que j'ai récupérées sur différentes plateformes, dont Kaggle. Un problème de machine learning, on va avoir comme données en entrée, on peut avoir toutes sortes de données en entrée. On va avoir des images, donc là, le classique avec les chats et les chiens. On peut avoir du texte, ça, c'est des commentaires qui ont été trouvés sur Wikipédia. C'est un vrai concours qui est possible, où on peut participer en ce moment. On va avoir des données tabulaires, par exemple un fichier Excel. Donc là, j'ai la surface, le nombre de chambres, le nombre de pièces. Et puis même, on va pouvoir travailler aussi sur du son. Donc là, c'est des échantillons sonores. En gros, pour le concours, ils ont posé un micro, enfin placé un micro dans l'eau et ils ont enregistré la faune sous-marine. Et puis à partir d'un échantillon de 10 secondes, il faut réussir à prédire si à l'intérieur de cet échantillon, il y a un cri de baleine ou pas. Donc vraiment assez différent du texte, de l'image, du son, des données tabulaires. On va aussi pouvoir prédire des choses différentes. Par exemple, le prix de l'appartement. Donc là, on va parler de régression, parce que ce qu'on cherche à prédire, c'est une variable qui est inclue dans R. Et puis, des problèmes de classification, chat, chien, etc. Quel que soit ce genre de problème, on va toujours pouvoir se ramener à cette forme-là. Cette forme-là, c'est-à-dire, on a une matrice des variables explicatives. Alors, je vais utiliser le terme de matrice de features assez régulièrement. On peut aussi parler de variables de descripteurs, de variables descriptives. À partir de cette matrice-là, on va chercher à justement faire une prédiction et à retrouver notre Y. Alors, si je prends l'exemple des chats et des chiens, ici, chaque ligne de ma matrice des variables explicatives, ça va être une observation, donc une image, un chat, un chien. Chacune de mes colonnes, ça va être une de mes features. Dans le cas de l'image, ça peut être un pixel, par exemple, même si ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser directement les pixels. Et puis, la variable à prédire, ça va être animal. Et pour chacune des observations, je vais avoir une réponse, qu'on peut appeler une réponse, un label, une étiquette, qui va être justement, est-ce que c'est un chat ou un chien ? Voilà, ça marche pour tous les concours. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que de l'apprentissage supervisé, vous le savez probablement, il y a aussi de l'apprentissage non supervisé, c'est quand on ne va pas avoir le Y, donc on ne va pas avoir les labels, et on va chercher à faire des regroupements parmi les observations selon une distance de similarité, enfin on peut utiliser la distance euclidienne, par exemple, et on va aussi avoir un cas de semi-supervisé, c'est quand on va être entre le supervisé et le non-supervisé, à savoir qu'on va avoir des labels pour certaines observations, et pour d'autres, on n'en aura pas. Il y a aussi l'apprentissage par renforcement, on en entend beaucoup parler depuis que DeepMind a développé les algorithmes AlphaGo et AlphaZero, qui ont battu les champions du monde de Go, et qui étaient essentiellement basés sur l'apprentissage par renforcement. Voilà. Alors, comment se déroule un peu le concours ? Donc, vous allez avoir, évidemment, une fois que vous allez approuver les règles du concours, vous allez pouvoir télécharger un ensemble de données. En fait, vous allez pouvoir télécharger le X, ce que j'appelle le X d'entraînement, qui est la matrice des features de l'entraînement, le Y entraînement, qui est les labels correspondants, et puis le X test, qui est la matrice de features du test. Vous n'allez évidemment pas avoir accès au label du test. Forcément, c'est ce que vous cherchez à prédire. À partir de ces... Alors, si je reprends par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, on voit qu'ici, dans le cas d'un challenge de machine learning, on n'est pas dans le cas d'un apprentissage supervisé, mais on va être en semi-supervisé. Semi-supervisé parce qu'on va avoir à la fois des observations pour lesquelles on a les labels et à la fois des observations pour lesquelles on ne les a pas. Alors, ça ne sera pas forcément toujours utile, mais c'est bon de le notifier. Donc, à partir de ces données, nous, on va entraîner un modèle et on va faire nos prédictions, justement, sur la matrice des features du test, ce qui va nous donner un vecteur de prédiction. Quand je vais soumettre ce vecteur de prédiction sur le site, donc sur la plateforme ENS Challenge Data par exemple, eh bien, mon score va être calculé non pas sur l'ensemble de ces prédictions, mais sur une sous-partie, qu'on va appeler le Y-test public. Donc vous pouvez très bien, au fur et à mesure du challenge, faire des soumissions, avoir un score, être premier dans le classement, mais à l'issue du classement, à la fin du classement, votre score, lui, sera calculé sur une autre partie de ce Y-test, qui va être la partie privée. Donc vous pouvez très bien être premier, pendant toute la durée du concours, et à la fin, passer dernier. Parce que vous avez, par exemple, overfitté la partie publique du Y-test. Il y a un challenge assez révélateur pour ça sur Kaggle, où les gens sont passés de la première place à la dernière place à l'issue du concours. Donc ça fait un saut assez conséquent. Donc voilà pour le déroulement. Alors maintenant, on va passer au niveau des connaissances requises. Alors le but, ça va être de... Enfin, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est juste pour vous donner quelques algorithmes d'apprentissage supervisé qui sont très utiles. Il y a la régression linéaire, bon, je pense que tout le monde connaît régression linéaire logistique. Il y a le perceptron multicouche. Alors ça va être un réseau de neurones, donc on va avoir différentes couches, et puis chaque neurone va être connecté à tous les neurones de la couche précédente. On va avoir les arbres de décision. Donc les arbres de décision, c'est on va essayer de partitionner notre dataset, notre ensemble d'entraînement, grâce à un arbre. Si je prends un exemple basique, imaginons que j'ai un dataset avec deux variables explicatives, l'âge d'une personne, est-ce que cette personne porte une jupe ou pas, et il faut savoir si cette personne est une femme ou un homme. Bah, probablement, ce que va faire mon algorithme d'arbre de décision, c'est qu'il va sélectionner d'abord la variable explicative qui va au mieux discriminer, selon ce que je cherche à prédire, les hommes ou les femmes. Donc, on va sélectionner en nœud racine de l'arbre, est-ce que la personne porte une jupe ou pas. Ensuite, on peut aller plus loin. On sait que, par exemple, pour l'âge, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc, l'algorithme va pouvoir trouver une seconde séparation sur l'âge en disant, par exemple, si la personne a plus de 90 ans, la probabilité pour que cette personne soit une femme est plus importante. Voilà, bon, c'est un exemple assez simpliste. Il y a du boosting, je ne reviendrai pas sur le boosting. Ensuite, il y a les réseaux de neurones à convolution qui vont être très importants si vous voulez travailler sur de l'image, faire de la reconnaissance d'image. Les réseaux de neurones à convolution, comme son nom l'indique, c'est d'abord des réseaux de neurones, sauf que ces réseaux de neurones vont avoir une architecture particulière. Il va y avoir des connexions qui vont partager les mêmes poids dans le réseau. Il va y avoir des phénomènes de localité où mon neurone ne va pas être connecté à tous les neurones de la couche précédente, mais juste à une certaine zone qui va être une portion de l'image. L'idée, c'est de faire des filtres de convolution qui vont être appris automatiquement et dynamiquement. Il y a les réseaux de neurones récurrents, ça va plutôt être pour de l'analyse de texte, pour du text mining. Alors, il faut savoir que tous ces algorithmes-là, on peut très bien participer à un challenge de machine learning en n'ayant aucune idée de comment fonctionnent ces algorithmes. C'est possible. Pour atteindre le haut du classement, il est quand même très fortement conseillé de les connaître. Ça va grandement vous aider. Alors, pourquoi est-ce important ? Alors déjà, parce que c'est passionnant. Bon, c'est une première raison. Ensuite, pour savoir les paramétrer efficacement. Ces algorithmes, ils vont venir avec un jeu d'hyperparamètres. Et ces hyperparamètres peuvent être très nombreux. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'algorithme, vous allez avoir du mal à trouver les bons paramètres. C'est un peu comme si vous rentrez dans le cockpit d'un avion, puis vous vous amusez à tourner tous les boutons sans savoir à quoi les boutons correspondent, et puis en vous disant, tiens, je vais peut-être avoir une chance de décoller. Surtout que ces algorithmes-là vont être très dépendants des paramètres. Sur un même jeu de données, je peux très bien, pour un set de paramètres, avoir des performances médiocres, pour un autre set de paramètres, avoir de très bonnes performances. Et puis, connaître leurs limites. Alors, je voudrais partager avec vous un petit exemple, donc ça va peut-être vous surprendre, ou pas, à voir. Donc là, c'est mes imports, c'est du Python. On fait souvent des compétitions de machine learning en Python, on verra ça tout à l'heure. Donc du coup, imaginons, j'ai une fonction successeur. Fonction successeur, la fonction plus bête, c'est difficile, à x, j'associe x plus 1. Donc je viens faire un tirage aléatoire entre 0 et 100 000 pour 100 valeurs. Ça, c'est mon x, c'est ma feature, j'ai qu'une seule feature. Et je vais essayer de faire une prédiction. Mon y, ça va être x plus 1. Donc si je regarde comme ça, je fais le prime. Donc là, effectivement, j'ai mon x avec le nombre tiré entre 0 et 100 000 et j'ai mon y qui est y plus 1. Je vais faire mon découpage train test. On n'évalue jamais son modèle sur la même partie que la partie sur laquelle on a appris notre modèle. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais là, c'est pour l'expérience. Je vais utiliser deux algorithmes, la régression linéaire et aussi une régression à base d'arbres. Donc, il faut savoir que les régressions à base d'arbres, pour Random Forest, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est des algorithmes qui sont vraiment puissants. Et je vais exécuter. Et bien, en fait, ce que je vois, c'est que la régression linéaire s'en sort plutôt bien. À la fin, je vais calculer l'erreur quadratique moyenne. Avec 3,82 10 puissance moins 23, on peut estimer que c'est 0. Mais mon arbre de décision n'a même pas été capable, alors que pourtant c'est un algorithme performant, n'a même pas été capable de modéliser la fonction successeur. Je vais continuer mon expérience avec une deuxième expérience. Il y a un dataset que j'ai généré synthétiquement. Donc je vais avoir, imaginons, 4 variables explicatives, 4 features, le diamètre d'un tube, la hauteur du tube, l'épaisseur du tube et le volume d'eau présent dans le tube. Je ne vous explique pas la formule que j'ai utilisée pour construire ma cible, pour dire oui, non. Même chose, je fais mon train test split, hop. Donc là, un apprentissage aussi sur une régression logistique. J'ai une accuracy de 0,7. L'accuracy ne se traduit pas par précision, mais c'est le taux d'exactitude. En gros, c'est les vrais positifs plus les vrais négatifs sur l'ensemble, sur la taille du dataset. C'est là où l'erreur, où l'algorithme a effectivement bien prédit. Donc j'ai 0,70. OK, bon, de toute façon, on ne sait pas. Est-ce que c'est bien, pas bien, je ne sais pas. J'utilise un random forest, j'ai 0,77 d'accuracy, c'est mieux. Et là, je vais utiliser un réseau de neurones, donc avec deux couches cachées, une avec 200 neurones et une avec 100 neurones. C'est un peu plus long, du coup. Et là, je vais avoir 0,896 d'accuracy. Maintenant, je vais vous dire quelle est la formule utilisée pour construire la cible. Et bien, en fait, c'est cette formule-là. C'est-à-dire, est-ce que le volume d'eau présent dans le tube est supérieur à la moitié du volume du tube ? Alors, on entend souvent parler de le machine learning va créer une intelligence artificielle qui va dominer le monde et dominer l'humanité. Il n'empêche que moi, quand j'essaye de modéliser cette formule-là avec un réseau de neurones et un dataset de 1800 observations et avec 4 variables explicatives, eh ben, j'y arrive pas totalement. Donc c'était pour vous montrer un peu les limites de ces algorithmes-là. Pour mieux les comprendre, moi, ce que je peux vous proposer, c'est un, de les manipuler sur des données synthétiques, c'est un peu ce qu'on a fait dans le notebook, ou alors c'est d'en implémenter une version simplifiée. Vous prenez un réseau de neurones, vous prenez juste une couche cachée, 3 neurones sur la couche cachée, 4 neurones en entrée, par exemple, et puis vous calculez vos gradients à la main, et vous recodez, ça prend une trentaine de lignes en Python, vous recodez vos algorithmes. Avec une version simplifiée, au moins, c'est un moyen de savoir comment ils fonctionnent. Alors, là, on était sur les connaissances... sur les connaissances requises au niveau des algorithmes d'apprentissage. Comme on l'a vu tout à l'heure, le machine learning, c'est entre les mathématiques et les statistiques et l'informatique. Il va donc vous falloir aussi des connaissances en informatique. Parce qu'il va falloir manipuler les données, il va falloir extraire des informations des données, ça ne va pas se faire avec un tableau ou un papier et un crayon. Donc forcément, il va vous falloir maîtriser, même très bien maîtriser, un langage de programmation. Alors ça peut être MATLAB, ça peut être Python, ça peut être R, ça peut être Scala, ça dépend de vos affinités. Les bibliothèques qui vont être associées. Par exemple, en Python, je sais qu'il y a scikit-learn, et je pense que vous le savez aussi, qui donne une bibliothèque de fonctionnalités qui peuvent être utilisées et qui nous font gagner un temps fou. Il y a Keras qui permet d'utiliser assez facilement et de construire ses réseaux de neurones. Il y a Pandas qui permet de manipuler des données tabulaires, de faire des agrégations, de faire des statistiques descriptives assez facilement sur les données. Ensuite, il faut maîtriser, je dirais, les structures de données. En informatique, on a plusieurs structures de données, les listes, table de hachage, les arbres binaires. Il faut aussi avoir des notions de complexité algorithmique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en train d'écrire votre algorithme ou votre bout de code pour manipuler la donnée, si vous êtes dans une complexité en n cube, eh ben ça ne sert peut-être à rien de continuer à développer votre algorithme parce que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. La complexité sera trop énorme et le temps de calcul sera beaucoup trop grand. La gestion de la mémoire aussi. Si vous êtes sur des datasets qui font 30 kg, 1 méga, 30 mégas, Python va gérer la mémoire pour vous, il n'y aura pas de problème, ça sera transparent. Si vous arrivez sur des datasets qui sont à la limite de ce que votre machine dispose comme mémoire, et bien là, vous allez peut-être devoir vous-même gérer la mémoire, passer dans un langage plus bas niveau, etc. Donc il peut y avoir des problèmes, je dirais, techniques, informatiques. Alors pourquoi c'est important de la même manière ? Ben, ça va vous permettre d'écrire du code rapidement, et du code sans bug, du code bien. Alors en quoi c'est important ? Ben, il faut savoir que si vous écrivez votre bout de code et que le moindre bout de code que vous écrivez pour manipuler votre donnée pendant le concours, vous mettez 3 heures pour l'écrire, si un autre participant, lui, ce même bout de code met 5 minutes, ben, forcément il va prendre une longueur d'avance sur vous. Il faut écrire du code optimisé. De la même manière, si vous exécutez, à chaque fois que vous exécutez votre code met 3 jours à tourner, si un autre participant, lui, va écrire un code optimisé et son code va mettre 5 minutes à tourner, forcément, il va aussi prendre de l'avance sur vous. Et écrire du code structuré, alors ça, c'est parce que si, par exemple, la première semaine, vous passez 10 heures sur le challenge, la deuxième semaine, vous n'avez pas trop le temps, vous ne passez pas de temps, la troisième semaine, vous dites, bah, tiens, je vais y repasser un peu de temps, et là, vous récupérez ce que vous avez fait la première semaine, vous ne vous souvenez plus bien de ce que vous avez fait, votre code n'est pas structuré, vous avez des variables, des nombres de variables qui s'appellent toto, tata, titi, abc, vous ne savez plus, et donc, du coup, il va falloir presque tout recommencer. Donc voilà, voilà pour la partie plus informatique. Donc là, ça récapitule un peu les différents outils. On n'a pas parlé d'apprentissage non supervisé. Ça va vraiment être les outils qui vont vous servir pour réaliser le challenge. Alors, maintenant, on va arriver sur la partie méthodologie. J'ai découpé la méthodologie en 5 étapes. J'aurais pu faire des sous-découpages. La première étape, c'est un peu passer en revue l'état de l'art. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre le problème du challenge, vous allez pouvoir regarder au niveau des publications, est-ce qu'il n'y a pas eu des publications sur des sujets similaires ? Ça va vous donner des idées. Vous pouvez regarder aussi sur les anciennes compétitions, s'il n'y a pas eu des compétitions avec un sujet similaire. Généralement, ceux qui arrivent dans le haut du classement des compétitions postent leur solution. Donc ça peut être très intéressant. Il va y avoir une partie exploration des données. On y reviendra. Il va y avoir une partie, alors, feature engineering, qui se dit ingénierie des caractéristiques. Le but, ça va être de créer des nouvelles variables explicatives, des nouvelles features, pour justement aider votre algorithme. On y passera plus de temps après. La mise en place d'une procédure d'évaluation et enfin, la création des modèles à proprement parler. Alors, au niveau de l'exploration des données, alors déjà, ce qu'il faut faire, c'est compréhension de ce que représente chaque variable. Dans certains challenges, vous allez avoir comme variable âge, sexe, non. Bon, là, tout le monde comprend. Par exemple, Hawking organise un challenge donc sur des données génomiques. Ça ne va pas être âge, sexe, etc. Ça va être des SNP. Qu'est-ce qu'un SNP? Ben, ça va demander de vous renseigner un peu. Ensuite, il y a l'analyse de la variable cible. Donc, généralement, par exemple, quand je veux prédire chat-chien, est-ce que je suis sur des données équilibrées? J'ai la même proportion de chat et de chien. Si vraiment c'est déséquilibré, je vais devoir réfléchir à des techniques pour artificiellement rééquilibrer mes données. Le type des variables explicatives, c'est des notions à connaître. Catégoriales, donc c'est des variables discrètes qui peuvent prendre un ensemble fini de valeurs. Ordinales, aussi des variables discrètes, mais quand même avec une notion d'ordre. L'exemple, c'est la taille, petit, moyen, grand. Et ben, effectivement, c'est une variable discrète, mais je vais quand même conserver une notion d'ordre. Les variables continues, OK. Alors, l'analyse des variables explicatives. Donc, par exemple, je vais afficher mes distributions en fonction de la cible. On verra tout à l'heure. Les valeurs manquantes, j'ai souvent des valeurs manquantes. Et puis, on peut regarder avec une matrice des corrélations, les différentes corrélations entre les variables. Le but de tout ça, ça va être vraiment de se familiariser avec vos données. À la fin, il faut que vos données, vous ayez découpé votre dataset en 1000 morceaux et que vous en ayez compris chaque recoin. C'est un peu le but et ça va se faire itérativement. Bon, alors, j'ai pas été très original, désolé. C'est le dataset de Titanic, donc un grand classique. Donc, on va avoir l'ID du passager, la variable à prédire, est-ce qu'il a survécu ou pas, la classe socio-économique, le nom, le sexe, l'âge. Si BSP est parche, bah là, c'est des variables qui ne sont pas très parlantes, il faut se renseigner. Donc là, c'est le nombre de frères et sœurs, le nombre de parents, enfants, parents, le numéro du ticket, le prix du ticket, la cabine et l'embarquement. Il y a eu des embarquements qui ont été faits en France, d'autres en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, effectivement, j'ai essayé de passer assez rapidement là-dessus. Donc, regardez si on est déjà en présence d'une variable à prédire qui est équilibrée. Bon, 62%, 38%, plutôt équilibrée. Quelles sont les valeurs manquantes? On voit qu'il n'y a quasiment pas de valeurs manquantes. On voit que l'âge, il y a 20% du dataset où on n'a pas la variable âge, enfin, où on n'a pas la valeur de l'âge. La cabine aussi. Le reste, on l'a. On peut plotter les distributions en fonction de la cible. Donc, par exemple, l'âge. Alors, ici, l'âge, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que plus on est jeune, eh ben, plus on a de chances de survivre, ce qui peut sembler assez logique. J'imagine que pour les jeunes, il va y avoir plus de compassion à bord du Titanic et on va avoir plus de chances de les mettre dans le canot de sauvetage. Aussi, au niveau de la classe, donc ça, c'est la classe socio-économique. Ben, forcément, plus on est dans la upper class, et plus on a de chances de survivre. Voilà. Ensuite, le prix du ticket, c'est un peu corrélé à ça, c'est pas étonnant non plus. Bah, plus mon prix du ticket est cher et plus j'ai de chances de survivre. Et puis ici, le nombre d'enfants et de parents. Bah, à savoir que quand je suis célibataire, donc zéro, pas d'enfants, pas de parents à bord, et bah, j'ai quand même plus de chances de ne pas survivre. Ça, c'est la matrice de corrélation. Ça peut donner une idée aussi. Alors, par exemple, avec notre variable cible, est-ce que j'ai survécu? Ce qui va être le plus corrélé, bah, ça va être justement ma classe socio-économique. Ça va être aussi le prix du ticket. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment de faire un peu des statistiques descriptives pour mieux comprendre le dataset. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie qui va être justement l'ingénierie des caractéristiques. Alors là, donc ça, j'ai regroupé plusieurs choses dans cette catégorie-là. Déjà, il va y avoir une partie de transformation de la donnée. À savoir qu'il y a certaines données, comme les chaînes de caractères, comme par exemple pour le sexe, c'est marqué mâle ou female, nos algorithmes, eux, ne travaillent que sur des valeurs numériques. Donc il va falloir les transformer d'une manière ou d'une autre pour qu'elles puissent être ingérables par nos algorithmes de machine learning. Ensuite, ça va être l'extraction des informations pertinentes et informatives cachées dans les données. On va vraiment essayer d'extraire de l'information que l'algorithme n'a pas pu déceler, n'a pas pu capter, puisqu'il est limité, et pour vraiment aider l'algorithme à trouver des meilleures corrélations. Et aussi, on va sélectionner des variables explicatives. Il faut savoir que dans les variables, il y a des bonnes variables. Si on les rajoute, notre modèle, on va avoir de meilleures performances. Il y a des variables qui vont être neutres, qu'elles soient là ou pas, ça ne va pas influer. Et il va y avoir des variables néfastes qui vont malheureusement faire overfitter nos modèles. Alors, sur ce terme d'overfitting que j'ai utilisé plusieurs fois, qu'on peut traduire en français par le surapprentissage, l'idée c'est que quand j'entraîne un modèle, je veux que mon modèle soit performant sur le train, mais je veux aussi qu'il ait une capacité à généraliser sur de nouvelles données. Donc une capacité de généralisation. Un modèle qui est très bon sur ma partie d'entraînement, qui fait zéro erreur, mais dès que je veux l'utiliser sur un nouveau set de données, fait énormément d'erreurs, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'est une citation de Andrew Ng, qui est connu pour ses cours, pour ses MOOC. Alors, je resterai sur la dernière phrase. En gros, ce qu'il dit, c'est que pour lui, en tout cas, le machine learning appliqué, c'est fondamentalement une question d'ingénierie des caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, je vais de la même manière passer un peu en revue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce dataset-là ? Donc, du coup, première variable, l'ID du passager. Alors, typiquement, ça, c'est des variables qu'il faut enlever. Parce que le problème, c'est qu'elles vont avoir une valeur distincte par observation. Donc, c'est typiquement des variables sur lesquelles votre modèle va pouvoir overfitter. Si je prends juste la variable passager comme feature et je veux prédire si mon patient a survécu, ma personne a survécu ou pas, juste avec ces deux variables, je vais être capable, si je régularise mal mon modèle, d'avoir une erreur sur mon train nulle. Pourquoi ? Parce que l'algorithme va faire passager ID 1, 1 ça veut dire qu'il a survécu, 2 ça veut dire qu'il n'a pas survécu, etc. Donc ça va être vraiment le genre de variable néfaste à enlever. Donc je l'enlève. La classe, comme je vous disais tout à l'heure, les algorithmes ne prennent que des valeurs numériques. Donc il va falloir transformer ça numériquement. Étant donné que c'est une variable ordinale, on va transformer ça en un entier. Donc ici, par exemple, pour le lower, j'ai 3, 2, 1, etc. Le nom, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Le nom, je vais avoir le même problème que pour l'ID, à savoir qu'à partir du nom, je vais avoir une seule valeur possible par observation. Donc ça, je vais avoir tendance à overfitter. Par contre, ce que je vois, c'est que dans le nom, j'ai des types de civilité. J'ai monsieur, mademoiselle et madame. Est-ce que je ne peux pas l'extraire ? Est-ce que ça pourrait m'aider ? Vous allez me dire non, ça ne va pas m'aider, parce que monsieur, madame, au final, c'est une information qu'on a déjà dans le champ sexe. Certes, mais par contre, peut-être qu'au niveau des madame et mademoiselle, ça va pouvoir nous aider au niveau de l'âge. De la même manière, vous allez me dire, l'âge, on l'a déjà. Oui, mais si on se souvient de notre exploration de données, on se souvient qu'il y avait des valeurs manquantes pour l'âge. Donc peut-être que lorsque la valeur est manquante pour âge, si on met cette nouvelle feature, le titre de civilité, l'algorithme va pouvoir se servir du titre de civilité pour compenser le fait qu'il n'ait pas accès à l'âge. Donc on va laisser ça. Alors même chose, si je mets monsieur, missis, c'est une chaîne de caractères, mon algo ne le prendra pas en compte. Donc du coup, hop, je viens coder ça sous forme de booléen. Alors ça, c'est un booléen. Au final, c'est des 0 et des 1. Ça marche dans un algorithme. Les algorithmes gèrent généralement les booléens. Le sexe, donc, pour une troisième fois, je ne peux pas le mettre, c'est une chaîne de caractères, je dois le coder. L'âge. Alors l'âge, j'ai des algorithmes qui vont prendre en compte les valeurs manquantes. La plupart des algorithmes ont du mal avec les valeurs manquantes. Si vous exécutez votre réseau de neurones là-dessus, les NAN, il ne va pas apprécier. Donc du coup, il y a plusieurs solutions. Une des solutions les plus basiques, c'est de prendre la valeur moyenne et d'imputer les valeurs manquantes avec la valeur moyenne. On peut aussi mettre, là on sait que l'âge, ça va potentiellement de 0 à 150 si je prends de la marge, on peut dire mes valeurs manquantes, je les code avec moins 1, par exemple. Il y a mieux à faire, mais dans une première itération, on va faire ça. Le nombre de frères et sœurs, c'est déjà une variable numérique. Bon, parfait, on n'y touche pas. Enfants, parents, on n'y touche pas non plus. Alors, ticket et cabine, on a beaucoup de valeurs manquantes, on va l'enlever pour le moment. Et ticket, on va avoir toujours le même problème qu'avec l'ID, c'est que je vais avoir un numéro de ticket, une valeur différente pour chacune de mes observations. Donc, je les enlève. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi rajouter à partir du nombre de frères et sœurs et de enfants, parents, on peut rajouter une variable qui est la taille de la famille. Voilà. Donc la taille de la famille, c'est simplement le nombre de frères et sœurs à bord, plus le nombre d'enfants et de parents à bord, plus 1. Vous allez me dire, mais attendez, là, si cette variable-là est importante, quand même, l'algorithme doit être capable de le retrouver. Mais en fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que, par exemple, si je prends mon arbre de décision, j'ai déjà du mal à modéliser ma fonction successeur x égale x plus 1. Donc là, en rajoutant cette variable famille, effectivement, peut-être que l'algorithme aura capté cette information si cette information est importante, peut-être pas, ou peut-être de manière incomplète. Donc, en rajoutant cette feature, on va aider notre algorithme. Le prix des places, l'embarquement, donc est-ce que c'est en France ou en Angleterre ? Donc en France, c'est Cherbourg, et en Angleterre, je ne sais plus trop. Même chose, S, une variable, une chaîne de caractères, enfin là, c'est juste une chaîne de caractères d'un caractère, je code ça. Une fois que j'ai cette matrice-là, je vais pouvoir donner ça en entrée de n'importe lequel de mes algorithmes. J'ai fait un peu de création de nouvelles features avec la feature family size et avec les, avec les titres de civilité. J'ai transformé les données qui étaient des chaînes de caractères en numérique. Voilà. Donc là, c'est une première étape. Ensuite, on va mettre en place une procédure d'évaluation. Alors, une procédure d'évaluation. Déjà, pourquoi une procédure d'évaluation ? Vous allez me dire, mais attendez, moi, je n'ai pas besoin d'une procédure d'évaluation. Une fois que j'ai fait mon modèle, j'ai mon vecteur de prédiction, je vais sur le site, et puis je soumets mon vecteur de prédiction, j'ai un score, j'ai mon classement, bah, là voilà mon évaluation. Il va y avoir plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, ça va être qu'en faisant ça, vous risquez d'overfitter justement la partie publique. Le deuxième problème, c'est que vous n'allez pas avoir le droit de faire 50 soumissions tous les jours. Je sais que sur les challenges ENS Challenge Data, en tout cas sur celui organisé par Okin, vous avez droit à une seule soumission par jour. C'est-à-dire que vous allez potentiellement vouloir essayer plein de choses. Tiens, je vais changer mes paramètres. Tiens, je vais créer des nouvelles variables, etc. Potentiellement faire 20, 30 essais par heure ou par jour. Donc du coup, le but, ça va être de faire une procédure d'évaluation qui va pouvoir être utilisée. Et à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle idée de feature, etc., vous allez utiliser votre propre procédure d'évaluation. Comme ça, vous pouvez évaluer ça 40 fois, 30 fois par jour, autant de fois que vous voulez. Alors, j'imagine que vous connaissez, mais on va quand même y revenir. C'est-à-dire que sur les procédures d'évaluation, le but, c'est que l'évaluation ne se fasse pas sur la même partie que la partie sur laquelle on a procédé à l'entraînement. Un des moyens de faire ça, c'est de faire un découpage des données. Donc, la première méthode, c'est qu'on fait un découpage entraînement-validation, avec un pourcentage, donc la moitié-moitié. Une partie de mes données, ça va être pour l'entraînement. Une partie de mes données, ça va être pour la validation, donc pour évaluer mon modèle, et je vais avoir mon score. Le problème, si on fait ça, c'est que comme les parties sont choisies aléatoirement, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on peut potentiellement, pour la validation, choisir des observations qui sont faciles à classer. Donc du coup, on va surévaluer notre modèle, choisir des observations qui sont difficiles à classer, donc sous-évaluer notre modèle. Et puis aussi, c'est un peu dommage parce qu'on va utiliser juste 50% des données pour entraîner notre modèle. Donc il y a quelque chose de plus intelligent à faire qui s'appelle la validation croisée. Donc sur la validation croisée, on va découper notre jeu de données en plusieurs parties. Et puis à chaque fois, donc ici en quatre parties. Puis on va prendre la première partie. La première partie, ça va être mon ensemble de validation. Les K-1 parties restantes, ça va être mon ensemble d'entraînement. À partir de là, je vais entraîner un modèle qui va me donner un score. Et je vais faire ça pour chacune des parties. À la fin, là, j'ai découpé mon data set en quatre parties. Donc je vais avoir quatre scores. Et je vais prendre la moyenne de ces quatre scores. Et ça va me donner, justement, ça va me permettre d'évaluer mon modèle. Alors c'est plus robuste du coup, c'est aussi plus long parce que là je dois entraîner 4 modèles. Si j'ai un default, je dois entraîner 10 modèles. Alors que là pour cette partie-là, au final en un seul modèle c'était... Mais du coup ça va être plus robuste et c'est généralement ce qui est utilisé. Et ce qui n'est pas parfait non plus d'ailleurs. On peut quand même, ça arrive, on overfit sa cross-validation. C'est pas parce qu'on a fait une cross-validation comme ça qu'on peut essayer tous les jeux de paramètres et on est sûr et certain de ne jamais overfitter. Ensuite, donc il va y avoir la partie création des modèles. Alors, sur la partie création des modèles, il faut savoir qu'en Python, par exemple, avec Scikit, créer un modèle, là, c'est 3 lignes, quoi. Mais il va falloir trouver les bons paramètres. Alors là, par exemple, c'est un exemple. Donc là, j'ai entraîné 7 modèles sur le dataset qu'on a vu tout à l'heure, donc qui était ici, à la fin de... Et voilà les différents résultats. Alors, je ne vais pas revenir sur les algorithmes, c'est à vous de creuser. Donc, du coup, ici, on a des régressions logistiques. Ici, c'est SVM. Ici, c'est perceptron multicouche, l'algo KNN. XGBoost, qui est un algo de boosting à base d'arbres. ExtraTrees, qui est un algo à base d'arbres de décision où je viens choisir mes variables aléatoirement. Et Random Forest, un arbre de décision classique, sauf que je n'ai pas juste un arbre, mais j'ai une forêt d'arbres. Donc du coup, comme je vous disais, c'est 3 lignes, mais après, il faut ajuster les hyperparamètres. Donc les hyperparamètres, c'est quoi ? Les paramètres, par exemple, dans un réseau de neurones, mes paramètres, ça va être mes poids, qui vont être ajustés automatiquement par le réseau de neurones, par le modèle. Les hyperparamètres, ça va être les paramètres que vous allez devoir ajuster vous-même. Par exemple, dans le cas d'un réseau de neurones, on va avoir le nombre de couches cachées, le nombre de neurones par couche, la learning rate, le terme d'inertie pour essayer de sortir des minimums locaux. Est-ce qu'on met du drop-out ou pas, là, etc. Il y a plein de paramètres à potentiellement ajuster. Alors moi, j'aime bien les ajuster manuellement. Alors c'est souvent plus long, mais généralement, le principe est souvent le même. C'est j'entraîne mon modèle. Si je vois que mon modèle overfit, Je vais jouer sur les paramètres de régularisation du modèle pour diminuer la complexité du modèle et donc diminuer l'overfitting. Si je vois que je suis plutôt dans un régime de underfitting, de sous-apprentissage, je fais le contraire, je vais rajouter des neurones sur ma couche cachée, par exemple. On peut aussi le faire automatiquement. Automatiquement, ça veut dire on a des librairies comme HyperOp, par exemple. On va lui dire, essaye de m'optimiser la learning rate, donc plusieurs paramètres, on va lui donner des ranges, et en fait, il va faire plusieurs essais successifs, et puis essayer intelligemment de modifier les paramètres pour trouver les meilleurs paramètres possibles. Alors, c'est subjectif, c'est personnel. Moi, j'aime pas trop faire ça, parce que le problème de HyperOp, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il va tester environ 1000 hyperparamètres. Vous allez le laisser tourner une nuit, deux jours, trois jours. Et puis, il va, donc, au bout de trois jours, il va vous dire, mes meilleurs paramètres, mes meilleurs hyperparamètres, c'est ça. Le problème, c'est que, de la même manière, comme il a fait 1000 tentatives, il va overfitter notre cross-validation. Donc, pour moi, utiliser ce genre d'algo qui vont trouver automatiquement les paramètres, le problème, c'est que ces hyperparamètres vont overfitter et qu'ensuite, ces mêmes hyperparamètres, quand on va les utiliser sur un nouveau jeu de données, ne vont plus fonctionner. Ça peut être sujet à débat, en fait. Donc, au niveau de la création des modèles, une fois que j'ai créé mes modèles, donc j'ai calculé le score en cross-validation, j'ai 7 modèles. Qu'est-ce que j'en fais ? Une des solutions, c'est de se dire, je vais sélectionner le meilleur. Donc là, le meilleur, c'est XGBoost. Ça sera souvent celui-là. Et donc, je vais juste faire une sélection du meilleur modèle pour faire ma prédiction finale. C'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que je vais moyenner la prédiction de chacun des algorithmes. Alors ici, j'ai 84.3, ici le max est 83.6. Je ne moyenne pas les scores, je moyenne les prédictions de chacun des algorithmes et je calcule le score sur le vecteur de prédiction moyenné. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ça marche généralement très bien, tout le monde fait ça, c'est pas très coûteux. Il y a une troisième possibilité, c'est d'entraîner un nouveau classifieur. Donc on va utiliser généralement un classifieur faible, enfin une régression logistique si vous êtes dans le cadre d'une classification. Et en gros, qu'est-ce que va faire ce classifieur faible ? Eh bien, il va attribuer un poids à chacun de vos algorithmes de l'étage précédent. Donc, alors que ici, on avait juste une moyenne, là, on va avoir en fait quelque part une moyenne pondérée entre les différents algorithmes. Si je prends un exemple assez simple, 11h54. Donc un exemple effectivement assez simple. Imaginons, j'ai un patient. J'ai son dossier médical. Je veux savoir si ce patient a le cancer ou pas. Je vais faire appel à 10 spécialistes. Chaque spécialiste, en fait, va se référer à un algorithme. Donc je vais faire appel à 10 spécialistes et je vais demander à chacun de ces 10 spécialistes de donner un score sur ce patient, sur le dossier médical, entre 0 et 10. Plus on est vers 10 et plus le spécialiste estime que ce patient a le cancer, et plus on est vers 0, plus le spécialiste estime que ce patient est sain. Donc je vais donner le dossier médical à mes 10 patients, à mes 10 spécialistes. Donc chaque spécialiste, je fais une référence avec un algo. La première solution, c'est de dire, parmi mes 10 spécialistes, je sais que le spécialiste 1, généralement, il a des meilleurs résultats, eh bien, je vais faire confiance uniquement à son score. Ça, c'est l'équivalent de ça. La deuxième, c'est de dire, j'ai mes 10 spécialistes, je sais que j'ai des spécialistes qui sont bons, d'autres moins bons. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moyenne de tous leurs scores, et puis, cette moyenne, ça sera mon résultat final. C'est l'équivalent de ce qu'on fait là. Ici, quand je viens faire une moyenne pondérée, c'est juste le fait de dire, parmi mes 10 spécialistes, je sais que le 1, il est vraiment bon, je vais lui mettre un poids de 1. Le 2, il est aussi bon, mais un peu moins bon, un poids de 0,9. Le troisième spécialiste, il est vraiment moins bon, je vais lui mettre un poids de 0,5, etc. Donc voilà, c'est l'idée qui se cache derrière ça. Si je résume, en fait, voilà ce qui va se passer lors d'un concours. C'est-à-dire que, en fait, c'est toutes les étapes qu'on a vues. On va partir de l'exploration des données. À partir de l'exploration des données, on va avoir des idées de manière dont on va transformer la donnée. On va sélectionner les features, extraire des nouvelles informations des nouvelles features. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est l'étape qu'on a faite. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer notre modèle ou créer nos différents modèles qu'on va ensuite agréger par plusieurs techniques. On va évaluer notre modèle. Et ensuite, on va regarder est-ce que le résultat que j'ai après évaluation, c'est bien le résultat attendu. Donc nous, on a fait, au final, là, avec les slides, toute cette partie-là. Alors, est-ce que le résultat attendu, là, on ne peut pas vraiment répondre à la question. Le but, c'est de dire parfois, je vais vraiment avoir une très bonne idée ou l'impression d'avoir une très bonne idée, de dire vraiment, cette information-là, j'ai créé une feature pour extraire cette information et je suis certain que ça va améliorer mes performances. Et puis, en fait, dans le résultat attendu, on voit que, en fait, non, pas du tout, ça n'améliore pas les performances. L'idée, c'est d'investiguer et de creuser, de se demander, mais pourquoi est-ce que, alors que j'étais pourtant persuadé que ça allait améliorer mes performances, pourquoi, au final, ça ne les améliore pas? Et donc, ça va peut-être nous amener à avoir d'autres idées de réflexion, de vouloir explorer une autre partie des données, et ça va être un processus itératif où on va de plus en plus, je dirais, creuser, essayer de comprendre pourquoi les choses qu'on pensait être des bonnes idées n'ont pas marché, et inversement. Inversement, dans le sens où parfois on se dit, bon, cette feature-là, je la rajoute, ça, à mon avis, ça ne va pas m'aider. Et puis, en fait, on évalue notre modèle, on s'aperçoit qu'on gagne 2-3 points. C'est ce qui peut être surprenant. Et même chose, il faut investiguer, essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Ensuite, on formule une nouvelle hypothèse. Et puis, on continue la boucle jusqu'à temps que ce soit la fin du challenge, jusqu'à temps qu'on en ait marre. Voilà. Donc, par exemple, nous, on a fait un premier tour de boucle ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au niveau ? Donc là, on est un peu à cette... On a fait ça, etc. Formuler une nouvelle hypothèse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir extraire de ce dataset qui va pouvoir être porteur d'informations, de signal? Je ne sais pas si vous avez des idées. Alors, on peut se dire qu'au niveau des noms, on sait par exemple que pour telle personne, on va avoir le frère et la sœur qui vont être embarqués dans le bateau, mais on n'a pas l'information sur ce frère et on ne connaît pas l'âge du frère, l'âge de la sœur. Peut-être qu'à partir de la variable nom, forcément la même famille, ils vont porter le même nom, et on va pouvoir aller chercher des informations sur les gens de la même famille. On peut peut-être ajouter une feature qui dit, si c'est une mère, quel est l'âge de ses enfants? On peut imaginer qu'une mère avec deux enfants dans les bras de 1 an, eh bien, va susciter la compassion de la part des autres passagers et avoir plus de chances d'être dans les canaux de sauvetage. Alors, c'est des idées qui peuvent vous sembler totalement farfelues. Vous allez me dire, mais ce n'est pas avec des idées comme ça qu'on va diviser son erreur par deux. Effectivement, ce n'est pas avec des idées comme ça qu'on va diviser son erreur par deux. Mais ici, ce n'est pas le but. Le but, c'est de gagner le 10e de point, le 20e de point ou le point qui va nous permettre de passer devant les autres. C'est un concours, enfin, c'est une compétition. Donc, si vous avez même une idée qui vous rapporte un 10e de point, mais que vous êtes le seul à l'avoir, même si elle est farfelue, eh bien, elle va vous permettre d'avoir une longueur d'avance. Voilà, donc là, une autre idée, si on veut boucler, de création de features. Alors, j'en finirai là, je voulais prendre un autre exemple, justement sur cette partie création de features. Donc ça, c'est un challenge qui a été organisé par AXA. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des conducteurs et des trajets. Chaque trajet va appartenir à un conducteur. Et qu'est-ce qu'un trajet? Un trajet, ça va être une suite de coordonnées GPS qui vont être relevées à chaque seconde. Donc, c'est un peu ce qu'on a là, 0, première seconde, etc. Ces coordonnées GPS, en gros, ont été recentrées, c'est-à-dire que le point de départ, c'est toujours 0, 0. Donc, imaginons qu'on soit face à ce genre de données. On est différents trajets comme ça avec des conducteurs. Et le but, c'est que pour un nouveau conducteur, on doive prédire... pour un nouveau trajet, pardon, on doive prédire à quel conducteur il appartient. Qu'est-ce qu'on peut bien faire à partir de ça? Alors déjà, il faut transformer la donnée, parce que là, on n'est pas sous la forme d'une matrice de feature X. Alors, on peut même essayer de réfléchir et de sortir un peu de la partie, je dirais même de la partie data science machine learning, c'est déjà poser la question plus largement, comment est-ce qu'on peut différencier un conducteur A d'un conducteur B? Alors ça, on peut en parler avec des membres de la famille, il n'y a pas besoin d'être data scientist pour faire ça. Ce qui peut différencier, c'est qu'on peut imaginer déjà, les gens vont avoir des styles de conduite un peu particuliers. Il va y avoir des gens qui vont avoir des styles de conduite sportive, qui vont avoir tendance à accélérer, freiner fortement, et puis d'autres où on ne verra pas ces phénomènes d'accélération. À partir de mes trajets, par exemple, où j'ai les coordonnées GPS, du coup, je vais pouvoir calculer la vitesse. Si j'ai la vitesse, je vais pouvoir calculer l'accélération. Pour un même conducteur, à partir de l'accélération, je vais pouvoir, par exemple, extraire des features comme le 95e percentile et le 5e percentile de l'accélération. C'est des features qui vont justement nous donner une indication sur le style de conduite du conducteur. Voilà un exemple de feature qu'on peut extraire. Et pour justement extraire ce genre de feature, on s'est d'abord posé la question, mais comment différencier un conducteur A d'un conducteur B ? Il y a aussi un autre style de feature qu'on peut extraire, c'est de se dire, bah voilà, si c'est les trajets d'un même conducteur, forcément on va récupérer des trajets du genre maison-boulot, maison-crèche des enfants, etc. Donc il va y avoir certains bouts de trajets qui vont se ressembler. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit, si on voit ce trajet-là, ici, là, avec hop, un petit 7 à la fin, et bien hop, on voit aussi que le trajet est à peu près identique. Donc on va pouvoir créer des features. Si j'ai un nouveau trajet, et ben je vais pouvoir essayer de créer des features du genre est-ce que ce trajet est similaire au trajet d'un conducteur en particulier. Donc voilà, c'est un peu cette idée de création de features. J'en ai terminé. C'est un peu...
Alors, est-ce qu'il y a...